Radio Capi, grand témoin.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine Grand Témoin qui vous fait découvrir des personnalités témoins de l'histoire du Congo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître David Kamoua, conseiller principal du gouverneur de la province du Nord Kivu en charge des finances, économie, commerce, travaux publics, portefeuille, plan, reconstruction et industrie. Qui est David Kamoua? Quel est son parcours? Découvrons cette personnalité dans ce magazine Grand Témoin que vous présente Jody Daniel Keshama, Bob Landou à la technique. Bienvenue à tous.
Le grand témoin.
Monsieur David Kamoua Moussoubao, bonjour.
Bonjour Monsieur Jodin Kachama.
Bien, la première question est de savoir qui est David Kamoua.
David Kamoua est aujourd'hui conseiller principal du gouverneur de province en charge des finances, économie, commerce, portefeuille, plan, travaux publics, reconstruction, mais également l'industrie.
Alors, mais pourquoi vous vous occupez de beaucoup de choses à la fois?
Effectivement, c'est puisque l'ordonnance qui a institué l'état de siège, comme vous le savez, aujourd'hui la province Nord Kivu est sous état de siège, tout comme la province de l'Ituri. Alors, l'ordonnance qui a institué cet état de siège a demandé à ce que le gouverneur n'ait que 5 collaborateurs. Alors qu'avant l'état de siège, le gouverneur a 10 ministres et plusieurs commissaires généraux, mais aujourd'hui le gouverneur n'a droit qu'à 5 collaborateurs. Et c'est pour cela que nous cumulons les plusieurs fonctions, puisque nous ne sommes que 4 conseillers principaux, ajoutés à cela les DIRCAB, conformément à l'esprit de l'ordonnance loi qui est située à l'état de siège.
Et comment vous arrivez à vous en sortir avec toutes ces responsabilités-là?
Effectivement, c'est un parcours de combattant pour essayer de cumuler toutes ces fonctions, mais avec la force de la volonté, la force des caractères, on arrive quand même à nous en sortir.
Alors parlez-nous de votre petite enfance, où est-ce que vous êtes né, votre vie familiale, votre naissance jusqu'à ce que vous êtes devenu aujourd'hui.
Merci beaucoup. Alors pour ceux qui ne le savent pas et pour ne pas les cacher, moi je suis né en 1975. Donc je suis des années Zaïre et dans la ville de Boutembo. Et juste une année après, je suis allé évoluer aux côtés de mes grands-parents dans un village qu'on appelle les Luofu, dans le territoire des Lubero, toujours ici au Nord Kivu. Et c'est dans ce village que j'ai commencé mes études, notamment à l'école primaire de Bungenye, toujours dans ce même village. Et juste après l'école primaire, j'ai fréquenté, comme tous les enfants, l'institut des Bouassoa ou l'institut des Luofu, comme ça s'appelle. Et là, je fais les humanités pédagogiques. Et après avoir réussi avec succès, avec distinction, mon diplôme d'état à l'institut des Luofu, je suis allé immédiatement à l'université de Kinshasa où j'ai fréquenté la faculté de droit. Voilà pour ce qui concerne.
Des Luofu directement à l'université de Kinshasa.
Du village sans transition à l'université de Kinshasa. Vous voulez vous imaginer combien je pouvais être peut-être complexé, mais pas du tout. Pas du tout. Et le village où j'ai étudié, c'était de très bonnes écoles. Et je me voyais complètement égal à tous mes collègues. Je n'avais pas de complexe, bien que j'ai quitté du village à la faculté.
Directement à la faculté. Et arrivé à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, qu'est-ce que vous avez fait comme études?
Et comme je le disais, arrivé à Kinshasa, je me suis inscrit à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, que nous avons fréquenté avec tous les autres collègues. Mais il faut dire que c'était pendant des années longues. Et donc, au lieu de 5 ans, parfois on faisait 7 ans même sans avoir échoué. Donc, c'était avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie que je me suis retrouvé du village à la capitale.
À la capitale. Et vous avez fait la pédagogie et vous vous retrouvez en droit. Pourquoi ces changements?
Effectivement, la pédagogie, c'est un domaine qui ouvre sur tous les horizons. Quand on est pédagogue, on est généraliste, on peut fréquenter n'importe quelle faculté. Et j'avais toujours eu le souci, effectivement, de la justice. Ça me caractérise. Et pourquoi? C'est parce que déjà dans ma trop petite enfance, j'étais toujours frustré lorsque je voyais mon papa, père son âme, puisqu'il n'est plus, et giflait ma mère. Alors j'étais toujours, je me disais toujours, si j'étais grand, j'allais sanctionner mon papa. Mais pour sanctionner quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le droit. Voilà pourquoi j'avais eu l'idée de fréquenter la faculté de droit, puisque j'étais vraiment animé dès mon enfance par l'esprit de justice.
Ouais. Et ce que papa faisait vous a révolté.
Effectivement, ça me révoltait. Je me disais, je dois fréquenter des écoles qui me permettent de sanctionner les gens qui font ce qu'il a fait là. Mmh. C'est vraiment une histoire vraie.
Okay. D'accord. Alors, parlez-nous d'une histoire, d'un bon souvenir que vous gardez de votre petite enfance.
Alors, le très beau souvenir que je garde, c'est la vie aux côtés de mes grands-parents, comme je l'ai dit. J'ai grandi aux côtés de mes quatre grands-parents. J'ai eu la chance de voir mes grands-parents maternels, mes grands-parents paternels. J'ai même eu la chance d'avoir la mère de mon grand-père. Donc, wow. Mon arrière-grand-père.
Oui, vous l'avez vu.
Jusqu'à l'âge de 15 ans, elle était vivante, très vieille, mais je l'ai vue. Et mon plus grand plaisir, c'était d'avoir effectivement tous les quatre grands-parents, plus un arrière-grand-parent vivant. C'est donc, ça n'arrive pas à tout le monde.
Et ça là, veut dire quoi? Dans votre famille, il y a la longévité
effectivement, je
est
crois,
effective.
Là, ma famille, vraiment, il y a la longévité. Hmm. Parce que même jusqu'aujourd'hui, j'ai encore et des arrière-grands-parents, grand-mère. C'est-à-dire la mère de mon grand-père qui a plus de 100 ans. Mais elle est vivante et elle va au champ.
Waouh! Ça, c'est une grâce.
C'est une grâce.
Voilà. Bien, vous écoutez l'émission Grand Témoin qui a le plaisir aujourd'hui de recevoir M. David Kamua Moussoubaou. Il est conseiller du gouverneur de la province du Nord Kivu. Il est en charge, il s'occupe de beaucoup de choses comme il avait dit lui-même tout à l'heure. Parlez-nous de votre famille. Vous êtes marié, père de combien d'enfants?
Effectivement, je suis marié à mon épouse Kabira Fazila. Et je suis père de 5 enfants, dont 3 filles et 2 garçons. Et là, je dois signaler que malgré mon âge, qui n'est pas... malgré mon âge, je suis déjà grand-père, puisque ma fille aînée est déjà mère de 2 enfants.
Alors, qu'est-ce que la famille représente pour vous?
Non, la famille est d'abord sacrée pour moi. La famille est sacrée. Malheureusement, les charges d'État ne nous permettent pas d'être toujours proches de la famille. Mais pour moi, la famille, elle est sacrée. Elle doit être protégée. Puisqu'effectivement, c'est la famille qui est la base de la société. Si la famille n'est pas bien encadrée, c'est la société qui va en périr. Donc, moi, je prends soin de ma famille parce que je suis convaincu que c'est vraiment la famille qui est la base de la société.
Après vos études, vous êtes lancé directement dans la carrière politique?
Effectivement, après mes études, juste après avoir défendu ma mémoire, j'ai fréquenté les aînés politiques dont mon papa Kampale Kiamwandiro, qui était sénateur pendant la transition. Et là, j'ai commencé comme assistant parlementaire de mon papa Kampale Kiamwandiro, qui m'a effectivement appris les premiers pas dans la politique. Bien avant cela, bien sûr, je fréquentais déjà des hommes politiques, puisque c'est depuis mon enfance que j'ai cette vocation de servir, comme le témoignent mes petites fonctions aux écoles, puisque j'étais régulièrement chef de classe.
Ah ouais? À l'école primaire,
à l'école primaire, tout comme à l'école secondaire, aux humanités de 3e année secondaire jusqu'à 6e année, j'étais déjà le commandant et chef de classe. Et même à la faculté, j'étais quand même président du groupe des étudiants du Nord Kivu. Et donc, j'ai cette vocation de servir les autres.
Vous avez le sens du leadership.
Je crois de manière naturelle. Ouais. Et donc, c'est comme ça que pendant la transition, je vais être, aux côtés, comme assistant parlementaire. Et après, je vais prendre la résolution de rentrer en province. C'est comme ça que je vais quitter Kinshasa où j'étais au Sénat pour me retrouver en 2004, à la fin 2004, ici à Goma. Et une année après, ici à Goma, j'ai eu la grâce de côtoyer et d'être aux côtés des grands hommes politiques qui est papa honorable Baloumé Toussi, qui venait d'être nommé vice-gouverneur de la province. Et là, comme on fréquentait ensemble à l'époque, les PPRD, qui était mon tout premier parti où j'ai appris la politique, il m'a désigné comme son intendant de résidence. Et une année après, ce sont les élections.
Et c'est quoi le travail d'un intendant de résidence?
Le travail d'un intendant de résidence, donc il s'occupe de l'intendance. Et l'intendance consiste à approvisionner tout ce qui est fourniture à la résidence du gouverneur, même au bureau, pour se rassurer qu'il gère tous les personnels d'appoint du vice-gouverneur. Mm-hmm. Alors juste après lui, il va être élu député national. Et là, nous allons, le PPRD va encore désigner notre vice-gouverneur. Et là encore, lui aussi va me retenir comme son étendard. Il s'agit de Papa Kouba Kilimali, paix à son âme, puisqu'il est décédé. Il va également accepter de me retenir comme son étendard de résidence. Et là, nous sommes donc à 2006. Et à l'an 2006, comme vous le savez, ça va maintenant être les élections où on aura le nouveau gouverneur, le tout premier gouverneur élu de la province Nord Kivu, qui est Julien Paluku.
Mais Kaungia.
Julien Paluku Kaungia, qui va être le tout premier gouverneur élu. Et pendant ce temps, il y a le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale qui va commencer. Alors, comme j'avais quand même une expérience au niveau du Sénat comme assistant parlementaire, je vais être également désigné comme expert du président du bureau provisoire, qui était le doyen d'âge, l'honorable Simi Sinzala Zabulo. Donc là, j'ai cumulé un peu de fonctions, ma fonction d'étendard de résidence du vice-gouverneur et expert à l'Assemblée provinciale. C'est là que nous allons faire connaissance avec l'honorable Julien Paluku Kaungia avant qu'il soit élu par ses collègues comme gouverneur des provinces. Et là, il va quand même nous découvrir. Et ce qui va faire qu'une année après, il va créer ce qu'il a appelé Brigade Provinciale des Finances, puisqu'à l'époque, la province n'avait pas un service de collecte des recettes. Il y avait tout simplement ce qu'on appelait cellule de recouvrement, juste qui suivait les recettes avec les différentes divisions. Mais le gouverneur des provinces, Julien Paluku, a eu l'idée de mettre en place une structure.
Une brigade.
Et ça s'appelait Brigade Provinciale des Finances, BPF. Et au sein de cette brigade, il m'a fait l'honneur de me désigner ou de me nommer déjà en 2008 comme inspecteur des finances chargé des questions juridiques. Et c'est à ce titre qu'avec les autres collègues, nous allons lui conseiller de créer une structure beaucoup plus large. Et il va accepter, après la promulgation de la loi portant libre administration des provinces, de mettre en place maintenant la direction générale des recettes du Nord Kivu. Et comme nous étions de ceux qui ont vraiment participé à la conception de ce service, il va d'abord, dans un premier temps, me désigner comme expert au pôle juridique, expert au pôle chargé des questions juridiques de cette administration fiscale provinciale. Et en 2010, il va me nommer comme directeur du contentieux. Voilà un peu comment je vais me retrouver ici. À province, donc là je suis déjà en train de parler de mon cursus administratif d'abord. Et en 2011, il va encore une fois me nommer directeur de l'inspection et contentieux. En 2010, il va me en 2012, il va me désigner directeur de l'inspection, législation, études et contentieux. Et ça, c'est la fonction que je vais occuper administrativement jusqu'à 2014.
Et qu'est-ce qui explique cette ascension fulgurante? Parce que on vous nomme toujours, c'est parce que c'est à cause de la qualité de du travail.
Vous constatez qu'effectivement chaque année, le gouverneur de province me faisait de nouvelles fonctions.
Oui.
Alors pourquoi? Je crois que c'est lui qui peut répondre comment elle m'a trouvé, comment elle a trouvé mes qualités. Mais ce qui est sûr, je suis quelqu'un de trop entreprenant. Donc tout le temps, j'ai fait des initiatives, je prends beaucoup d'initiatives pour essayer de réfléchir sur la structure dans laquelle je me retrouve. À tout moment, je conçois toujours. Et toutes les fois que j'ai amené des idées, des réformes, je crois qu'il trouvait cela intéressant. Et c'est comme ça qu'à chaque instant, en tout cas, il n'hésitait pas à me confier d'autres responsabilités. Alors, je disais que en 2003, j'étais membre du PPRD, puisque c'est le PPRD venait de commencer. Mais en 2012, effectivement, aux côtés de son Excellence Julien Paluku, nous avons décidé de créer un nouveau parti politique, juste après les élections de 2011. C'est là que nous allons créer ce que nous appelons BIREC, Bloc Uni pour la Renaissance et l'Émergence du Congo. Et là encore, le gouverneur de province Julien Paluku, qui est mon parrain politique jusqu'aujourd'hui, va me nommer secrétaire général adjoint. Donc je suis parmi les tout premiers dirigeants du Bloc Uni pour la Renaissance et l'Émergence du Congo. C'était déjà, sur le plan politique, une sorte d'émergence personnelle, puisque au niveau du PPRD, j'étais président provincial de la Ligue des Jeunes. Alors des présidents provinciaux de la Ligue des Jeunes dans un parti politique pour aller devenir secrétaire général adjoint, vous constatez que c'était vraiment un pas de géant.
Oui, vous êtes quelqu'un de brillant, c'est ce qui explique pourquoi qui a eu toutes ces nominations-là. Mais à part la politique, vous avez aussi la casquette d'entrepreneur. Alors, parlez-nous un peu de ce que vous faites dans le domaine de l'entrepreneuriat.
Je crois qu'avant d'arriver dans le domaine de l'entrepreneuriat, je vais d'abord finir
avec la politique.
Avec la politique.
D'accord.
Alors, comme je le disais, donc en 2012, je suis nommé secrétaire général adjoint au niveau du bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo. Mais ça va continuer parallèlement avec mes fonctions administratives telles que je l'ai dit. Alors, en 2014, je veux décider d'apprendre autre chose. Tout simplement, sur mon téléphone, je vois l'offre d'emploi où on recrutait un coordonnateur des projets de la Banque mondiale. Et ce projet s'appelait Profit Congo, projet de réforme des finances publiques, qui était piloté par le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, le COREF. Alors, dès que j'ai vu sur mon téléphone cette offre d'emploi, j'ai envoyé mon CV, comme toute autre personne, dans l'anonymat. Et 6 mois plus tard, on m'appellera pour me dire que mon CV a été retenu, alors qu'il y a eu plus de 600 candidats, et on a retenu seulement 6, et j'étais parmi les 6. Et là, il fallait aller à Kinshasa pour participer à ces concours. Mmh. Et après les concours, 2 mois après, on m'appellera pour me dire que je suis sorti le premier et donc que j'étais maintenant prêt pour signer les contrats comme coordonnateur du projet de la Banque mondiale. Ce qui fait que je vais rester de 2014 jusqu'à 2019 coordonnateur de ce projet, Profit Congo. Et à 2019...
Et le projet consistait à faire quoi?
Le projet consistait à faire amener les réformes des finances publiques dans notre pays. D'accord. Comme vous le savez, depuis 2011, la République s'était dotée d'une nouvelle loi relative aux finances publiques que nous appelons à terme technique la LOFIP. Et il fallait des animateurs pour la mettre en œuvre. Et le projet consistait donc à matérialiser les différentes réformes des finances publiques induites par cette nouvelle loi, mais également la nouvelle loi sur le règlement général de la comptabilité. Et nous étions donc chargés de mettre en œuvre toutes ces différentes réformes. Alors, en 2019, comme j'ai cumulé malgré mes fonctions de coordinateur, je n'avais jamais abandonné totalement la politique, je vous ai dit que c'est ma passion,
oui.
Je vais être nommé par son Excellence Karine Danzuka Civita comme ministre provincial des Finances et des Mines. Et je vais exercer cette
fonction. En même temps, vous coordonnez ce projet de la Banque mondiale, en même temps vous êtes nommé simultanément.
Bon, effectivement, comme c'était incompatible,
ouais.
Après ma nomination, j'étais obligé de démissionner,
ouais,
de ma fonction de coordonnateur du projet Profit Congo de la Banque mondiale. Et là, je vais exercer ces fonctions de ministre provincial des Mines et Finances jusqu'à l'avènement de l'état de siège. Et à l'avènement de l'état de siège, donc au mois de mai 2021, encore une fois, j'ai eu la grâce, puisque de tous mes collègues ministres, j'ai été le seul à être maintenu comme conseiller principal. Et là, il faut dire que la fonction de conseiller principal est la même comme la fonction de ministre, sauf qu'on a changé des dénominations. Donc, de tous mes collègues, j'avais eu seulement la grâce d'être le seul qui est resté en train de travailler pour la province en qualité de conseiller principal en charge des finances, économie, commerce, plan, portefeuille, travaux publics, réconciliation, tel que je l'ai dit. C'est
mais,
donc
oui,
un parcours plus ou moins exceptionnel à mon niveau,
oui,
mais lié à la grâce, tout simplement.
Voilà, c'est tout simplement la grâce. Maintenant, dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous faites? Je vois quelques produits ici devant moi. Kamua Seigneurial, Red Wine, voilà, vin rouge, Kamua Seigneurial, liqueur. Et je vois des cailles, ce sont les œufs de cailles, je crois.
Les œufs de cailles.
Les œufs de cailles. Alors, parlez-nous de tout ça. Vous avez la cascade d'entrepreneur.
Je suis vraiment entrepreneur né, puisque de tout le temps, je ne lâche jamais cet aspect des choses. Mais il faut avouer que cet esprit d'entrepreneur a pris de l'aile lorsque j'ai écouté une émission sur Radio Okapi.
Ah oui?
Oui, pour du vrai, en 2018, j'ai suivi une émission sur Radio Okapi, je ne me rappelle plus du nom de l'émission, mais dans cette émission, on parlait de l'éducation financière. Et il s'agit de Ricardo Kanyama qui était invité de cette émission.
Oui.
Alors, après avoir suivi l'émission, j'ai directement cherché à avoir les contacts de M. Ricardo Kanyama qui parlait de l'éducation financière. Et ce qui m'émerveillait, c'était l'historique qu'il racontait dans cette émission par rapport à sa vie, d'entrepreneur. Mais également d'auteur, puisqu'il parlait de son ouvrage « La chèvre de ma mère, le secret de la prospérité financière ». Alors, ça m'avait tellement...
C'était dans mon émission, au Capi Service.
Exactement, au Capi Service.
Oui.
Alors, moi, l'émission m'avait tellement pénétré, et l'idée qui était développée par M. Ricardo Kanyama, et c'est là que j'ai dit, je dois effectivement avoir l'éducation financière pour me permettre de transformer l'argent en richesse. Puisqu'on peut avoir un milliard de dollars, si on n'a pas l'éducation financière, on ne saura jamais transformer cet argent en richesse. Et c'est depuis lors que j'ai immédiatement pensé à monter certaines activités. Et la première, j'ai d'abord pensé à la santé. Donc, je suis entrepreneur dans les domaines de la santé, parce que déjà, depuis cette année-là, j'avais immédiatement créé ce que j'appelle Clinique Notre-Dame. Là, c'est une clinique, l'une des cliniques modernes de la ville ici, bien équipée avec des matériels médicaux modernes. Mais comme je venais d'avoir l'éducation financière, il fallait que je réfléchisse sur comment je vais avoir les clients pour venir me se faire soigner dans ma petite jeune clinique qui venait de naître, qui n'avait pas encore de rénaux. J'ai imaginé la création d'une mutuelle de santé. Et c'est comme ça que je suis promoteur d'une mutuelle de santé qu'on appelle Moussa Novi. La Moussa Novi, c'est la mutuelle de santé notre élu, qui prend en charge plus de 20 000 personnes sur l'ensemble de la province, et même en province du Sud Kivu, et même en Ituri. Je citerai, par exemple, tous les agents de l'ICSN, tous les agents de Virunga Énergie, tous les agents de Virunga Fondation.
Ils sont dans Moussa Novi.
Tous ces agents sont dans Moussa Novi et sont soignés pour certains à Kilinovi et ailleurs. Et c'était l'idée, déjà la première idée, parce que je sais que la santé, c'est la vie. Donc si on n'a pas la santé, même si on est millionnaire, si on n'a pas de santé, en tout cas,
on
ne peut rien faire. L'argent ne sert à rien si on est à mauvaise santé.
On est malade, oui.
Et après le domaine de la santé, j'ai dit non, j'entre également dans l'élevage. Et là, j'ai commencé à élever les cailles. Alors les cailles, ce sont des petits oiseaux, vraiment fantastiques, qui produisent ce qu'on appelle les œufs d'écaille. Je crois que vous les
avez. Oui, je vois quelques œufs d'écaille ici. Il y en a combien là?
Quelle est là? C'est une plaquette.
4, 5, 6.
C'est une plaquette de 18.
18.
18 qui sont sur le marché, que je mets dans tous les supermarchés de Goma ici. Parce que les œufs d'écaille ont beaucoup de vertus, des vertus médicaux. Ce sont les œufs qui soignent la plupart des maladies chroniques et sont soignés avec ces œufs qui sont vraiment des œufs que moi je qualifie des œufs magiques.
Okay.
Pour ceux qui lisent la Bible, on dit que c'est le peuple israélite de l'Égypte vers Canaan se nourrissait effectivement des œufs d'écaille. C'est ça qu'on appelait la manne du ciel, parce qu'il y avait trop d'écaille dans le désert. Et c'est grâce à ces œufs d'écaille que les Israélites sont arrivés chez eux. Donc j'ai commencé l'élevage de caille, mais comme la production était abondante, j'ai produit plus de 1000 œufs par jour.
Sur place ici à Goma
Sur place ici à Goma.
Okay.
Et là, j'ai pensé à la transformation. J'ai pensé à la transformation pour qu'effectivement, je ne puisse pas utiliser les œufs de caille uniquement sur l'aspect alimentaire tout court. J'ai pensé à la transformation et c'est comme ça que vous voyez devant moi une bouteille de Camus à Sunyérial. C'est tout simplement de la maroula fabriquée sur base des œufs d'écaille.
Wow.
Alors, à part les...
Transformée sur place, fabriquée sur place.
Fabriquée sur place ici, dans mon usine.
Mm-hmm.
Mais comme ce sont des œufs qui ont beaucoup de vertus sanitaires, je pensais aussi à la transformation sur le plan cosmétique. Donc là aussi, nous produisons des savons, nous produisons les laits de beauté, nous produisons beaucoup d'autres produits grâce effectivement ou à partir des œufs d'écaille. Ça, c'est sur le plan entrepreneurial.
Le grand témoin.
Oh, Parlez-nous de quelques actions sociales que vous posez au travers de votre fondation. Vous avez certainement une fondation.
Effectivement, à part les structures économiques, j'ai également des structures sociales comme la fondation David Camois. Et cette fondation fait vraiment beaucoup d'œuvres sociales. Et moi, je crois que ceux qui ont dit que l'eau, c'est la vie ont raison. Voilà pourquoi, à travers ma fondation, je m'occupe des addictions d'eau dans plusieurs agglomérations, notamment à Kanyabayonga, à Kirumba et ailleurs. Et je suis aussi dans l'éducation, puisque quand je vois dans mon école, par exemple, où j'ai étudié, j'y arrive, et les tôles sont en train de sointer, je dis non, ce n'est pas possible, nous devons absolument refaire cette toiture pour permettre aux enfants d'étudier dans les bonnes conditions. On les offre les bancs, puisque pour la plupart, on vous dit, il y a 40 élèves, mais pour 15 bancs, je dis, c'est pas possible. Donc, nous intervenons dans beaucoup de secteurs, et particulièrement les domaines de l'éducation, les domaines de la santé. Mais nous n'oublions pas également les vulnérables, tels que les vieillards, tels que les femmes, les jeunes femmes. Mais la jeunesse aussi occupe une place de choix pour la Fondation David Camois. C'est pour cela, par exemple, que dans mon territoire de Lubero, j'ai pensé à encadrer les jeunes en les construisant un studio de musique. Puisqu'il y a des jeunes garçons très talentueux, mais qui n'ont pas d'infrastructure. Pour que les jeunes se produisent, ils devaient aller à Butembo, ils devaient venir ici à Goma. J'ai dit non. Pour les encadrer, je dois effectivement construire un studio de musique pour les jeunes, où pour le moment, ils chantent et se produisent gratuitement. Ah, ça c'est sur le plan musical.
Et ils ont déjà quelques, il y a déjà des albums qui sont sur le marché.
Il y a déjà beaucoup beaucoup d'albums qui sont déjà sur le marché, que ce soit du côté profane que du côté chrétien. Et vraiment, les jeunes étaient très, 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 très heureux d'avoir cet ouvrage. Mais également pour les jeunes sportifs, par-ci, par-là, nous les encadrons en leur octroyant les outils, notamment les outils modernes pour être compétitifs. Et d'ailleurs, l'une de mes équipes était sortie, l'équipe championne du territoire de Lubero. Elle est venue jouer championnat provincial ici à Goma. Ouais, d'ailleurs, elle a été la première, puisqu'elle a, sur trois matchs, elle a gagné un match, elle a fait match nul, elle a perdu un autre, mais elle avait 4 points, elle était la première à terme des points, mais elle a été éliminée tout simplement, puisque sur le plan administratif, l'équipe avait aligné des joueurs, certains joueurs qui n'étaient pas en ordre. Donc, nous sommes dans tous les domaines pour essayer d'encadrer les jeunes, puisqu'effectivement, lorsque les jeunes ne sont pas encadrés, ils deviennent une bombe pour la société. Les jeunes se lancent dans les groupes armés puisqu'ils n'ont pas un encadrement. Oui. Et là, nous sommes en train de construire également des centres culturels pour les jeunes où on va leur apprendre la coupe couture, on va leur apprendre beaucoup de domaines pour qu'effectivement nous puissions contribuer à leur encadrement.
Bien, David Camois est dans beaucoup de choses, plusieurs casquettes. Alors, quels sont vos loisirs?
Mes loisirs,
bon moment de détente.
J'aime beaucoup le foot, d'abord. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je suis l'un des joueurs de l'équipe du football de la province, du gouvernement provincial. Où chaque dimanche, nous nous entraînons à Bouimba pour essayer de garder de la santé en forme. Mais à part le sport, j'aime également la musique. Je suis vraiment suis fan de beaucoup de musiciens. Et depuis mon enfance, j'ai chanté même dans beaucoup de chorales à partir du village, mais également même à l'université de Kinshasa, où j'ai chanté à Notre-Dame, à la paroisse Notre-Dame de la Sagesse.
Nodassa, à l'université de Kinshasa.
Exactement.
Alors, quel est votre disque préféré, que nous allons écouter d'ailleurs tout à l'heure avec nos auditeurs?
Alors, je dois dire ma musique préférée lorsque j'étais encore étudiant. Je suis d'abord fan de Koffi Olomide. Je suis fan de Wenge Musique lorsqu'ils étaient encore ensemble. Aujourd'hui, je suis fan de Fally Ipupa, mais quand j'étais étudiant, j'aimais beaucoup Sans ces vers de Koffi Olomide.
Ibrahim Chakou, Inga Laurent Lorenzo, na Mike Balusa, aussi à Sassa. Rendez-vous manqué, le matin a comme comme si mon sofa.
Écoutez, n'a pas de sanguinaire.
Faute à distance.
Vida, mon n'a pas de panayo. Y'a qu'à cause de l'onga.
Schengen, blessa. Abs, kapanga, la loma, la holz.
Y'a mon ex qui ne nuit pas. Y'a te n'a pas de motema, mec. La vez est loco, y'a sentiment.
Panage à deux.
Comme y'a que y'a y'a comme un sinon, n'y'a mort. Aiguille à beauté, mais comme il cause
au monde.
L'ascenseur Versailles. À deux mètres, n'en est cimetière. Tomatara comme il cobango.
La gouffa bolengue.
Est-ce que n'a cause à campé qui m'a secou?
La gouffa n'a beau moana.
Vida mon anga est souké par ailleurs.
Photo Joël. Charlie Kadima. Eva Malakou.
Bolingo est à la qui a popo.
Damokati. Jean-Lumérita. Vianney Kande.
Kostoko fe sanga mo kongoti. Yamanga abra ouvert.
Patrick Mbongambeni. Claude Moké, André Pindi.
Bonne bisoni d'amour,
Muzinga Nkemba,
et pour ma porte en la jour d'anniversaire,
Simplice Kaoundo,
Kotiyana Seya Matanga,
Jean Seloussi,
Yeboyebo, Boutadimouta Henri Papa,
Godelive Katumba, Bino Lumbu Eteliès. Ah, Guima Pendo, Richard Tumba, Kamamboama, Eva de Scandinavie, Boni, Marco Diolela.
Ate o kovoye na kore na yoka kayo konsalo matai.
Rombone Pima.
Ayo papa, pinga batonga, pambanga, oseli, wabo, wabo, wabo.
Samba Sankara, Neke Roche, Malsim Stemo. Maître Wea Hamoukouna de l'Ordre, Café Mosaïque, Roger Souba, Souen Abango, Toya Bolingo Ezala 100%, Jean-William, Bijou Mboma, Elise Mboma, Dedembia le billionnaire, Yves Sindé, Ojoma Yanene, Lufira Nani Mbombe, Didi Koko.
Bien, vous venez d'écouter la sens inverse de Koffi Olomide, l'un des titres préférés de notre invité qui est David Kamoua Moussouba, conseiller du gouverneur de la province du Nord Kivu dans le domaine des infrastructures, commerce, économie, PME, plan, industrie, etc. Dans cette émission, grand témoin, nous retraçons le parcours des différentes personnalités, témoins de l'histoire de la République démocratique du Congo. David Kamoua, vous assumez plusieurs fonctions. Pouvez-vous nous dire ce qui a été fait, par exemple, dans les domaines des finances, du commerce, etc.
Si je commence à parler des réalisations, je crois qu'on peut faire toute une journée. Et là aussi, profil bas, je dois avouer que ce ne serait même pas les réalisations de David Kamoua, mais plutôt les réalisations du gouvernement provincial. Alors, par exemple, pour ne parler que des finances publiques. Ici, je dois vous dire que je suis l'homme le plus heureux. Je suis l'homme le plus heureux puisque, comme vous l'avez suivi, je suis de ceux qui connaissent quand même l'historique des finances de cette province. Lorsque le gouverneur Julien Paluku arrive au pouvoir, la province réalisait très difficilement 50 000 dollars à terme des recettes propres. Rien que 50 000 dollars. Mais à partir du moment où il a mis les stratégies de collecte des recettes, jusqu'à aujourd'hui nous sommes dans la collecte numérisée, il est passé de 50 000 dollars à 80 000, 80 000, 120 000, 120 000, 200, 200, 300, 400. Nous avons fait très longtemps entrer des stagnaires à 400 000 dollars, 500 000 dollars le mois. Et finalement, en 2014, nous sommes arrivés à 1 million de dollars le mois. Et là aussi, de 2014 jusqu'à 2021, on a nagé de 1 200 000, 1 300 000, 1 500 000, jusqu'à 2021, on était à 1 600 000. Et par la grâce, encore une fois, et pendant l'état de siège, nous avons atteint un rêve que nous croyons inimaginable, le rêve d'atteindre 2 millions de dollars le mois. Et nous était la guerre nous imposée aujourd'hui par le M23 et le RDF rwandais. Nous serions déjà plus que ça. Et c'était plaisir et un honneur personnel puisque ça arrive pendant que nous sommes aux affaires aux côtés de l'autorité provinciale, le lieutenant général Constant Dima, qui est un gouverneur très exceptionnel. Et nous sommes arrivés à 2 millions de dollars. La guerre nous a ramené encore à moins de recettes, mais en tout cas, vous pouvez imaginer la joie que j'ai. Je suis le 5e ministre provincial des Finances et c'est pendant notre époque que nous arrivons à ce que nous croyons être.
Atteindre ces records-là.
Ces records, c'est donc un grand plaisir.
Dans le secteur du commerce.
Dans le secteur du commerce, nous n'avons pas à nous attribuer grand-chose, nous devons l'avouer. D'abord, la guerre a détruit le commerce de la province, qui est l'outil économique de notre économie. Malheureusement, sur le plan du commerce, il y a beaucoup de choses à faire, puisque là où il y a la guerre, les affaires ne marchent pas comme il le faut. Il y a plutôt beaucoup de défis, mais je ne cesse de dire, nous devons transformer les défis en opportunités. Mais au moins, le gouverneur de province et nous-mêmes, nous nous battons pour l'amélioration du climat des affaires sous l'inspiration effectivement du pouvoir central. C'est par exemple dans ce cadre que déjà la semaine prochaine, spécialement le lundi, l'autorité provinciale va sensibiliser les structures intéressées au guichet unique intégré en matière de commerce extérieur. Et là, c'est pour essayer de faire en sorte que nous puissions améliorer le climat des affaires. Alors, sur le plan, par exemple,
des infrastructures,
là alors, il y a beaucoup de réalisations, mais à titre illustratif, nous allons ici féliciter l'autorité provinciale, et vraiment qui est toujours à l'écoute de ses experts et ses conseillers. Et toutes les fois que vous lui amenez une proposition, il n'hésite pas à accepter. Voilà pourquoi, déjà dès son arrivée, nous lui avions proposé de construire une avenue qui devait marquer l'état des sièges. Et c'est l'avenue qui part de Biréré pour la ville de Goma ici. Pour ceux qui connaissent la ville de Goma, c'est l'avenue qui part de Biréré au stade de Afia, en passant par l'aéroport Tchoukoudou, l'aéroport du parquet, jusqu'à la résidence officielle du gouverneur. Et là, c'est vraiment une très grande réalisation pour...
C'est combien de kilomètres de route?
C'est 2 kilomètres.
D'accord.
À part ça, nous avons, à côté de l'autorité provinciale, nous avons réalisé quelque chose qui honore tous ces pays, puisqu'il y a l'avenue qui va du Ropoué Biréré jusqu'à la petite barrière de Goma. C'est une avenue qui faisait la honte de la République, puisque c'est une porte d'entrée du pays. Quand vous arriviez, c'est le voisin, très propre, bien construit, et chez nous,
la route était en mauvais état.
C'était de la boue, s'il vous plaît. Mais le gouverneur de province a aussi construit cette avenue, plaçant des pavés. Mais il y avait aussi autre chose, sur le plan psychologique, par exemple, des militaires. Quand vous regardiez chez le voisin à Gisenyi au Rwanda, les militaires étaient bien logés dans des miradors. Les nôtres étaient dans des bâches déchiquetées. L'autorité provinciale a dit non, nous aussi nous devons construire mieux que le Rwanda. Et nous avons placé 28 miradors avec 4 postes de police et 4 postes de toilettes sur la frontière avec la ville de Gisenyi. Et là, ça nous permet d'abord à nos militaires de regarder les militaires rwandais avec confiance. Parce qu'avant, ils nous regardaient comme des pygmées, entre guillemets. Mais maintenant, on se respecte, puisque nous sommes tous dans les mêmes conditions, et même mieux que.
Oui.
Et ça, ce sont des réalisations à mettre à l'actif de l'état des sièges pendant que nous sommes conseillers à charge des infrastructures. Mais il y en a beaucoup. Je ne saurais même pas citer tout. Quand vous arrivez à Boutembo, vous allez voir les ponts Moussoussa, vous allez voir l'avenue qui va vers la mairie. Et il y a aussi un programme que l'autorité provinciale a mis en place, le programme de construction des bâtiments administratifs des communes rurales. Et ça, c'est vraiment un modèle pour toute la République qu'on devait suivre. Vous voyez, avec le plan de développement des 145 territoires, le chef de l'État a initié la construction des bâtiments des territoires. Mais ici, nous sommes allés plus bas. Nous allons jusqu'aux entités territoriales, aux communes rurales. Mmh. C'est dans ce cadre, par exemple, que nous avons déjà construit deux beaux bâtiments. Un pour la commune rurale de Mangina, un autre pour la commune rurale de Kirumba, et aujourd'hui, un autre à construction pour la commune rurale de Boulongo. Et n'eût été la guerre, on aurait déjà construit pour la commune rurale de Kiwanja et même de Kibumba. Donc, un projet très intéressant pour la République. Je crois que même les autres gouverneurs peuvent s'inspirer de ces modèles.
Le grand témoin.
Une autre question, Monsieur David Kamoua. Quelle est votre vision du développement de la province du Nord Kivu?
La province Nord Kivu, à bien des égards, c'est une province qui se veut une province pilote ou une province modèle. Nous avons toujours pensé que comme le soleil s'élève à l'est, le développement peut également partir de l'est. Nous avons l'avantage d'avoir une population très résiliente malgré tous les affres de la guerre qu'elle traverse. Mais c'est encore une fois une population non seulement résiliente, mais également entreprenante. Alors, avec cet atout, effectivement, moi, je rêve d'une province, comme je l'ai toujours dit, d'une province 100% paysanne. C'est un anagramme.
Paysanne, ça veut dire quoi?
Une province 100% paysanne, pour dire, nous rêvons de Nord Kivu 100% propre. Ce sont les P. Nous rêvons de Nord Kivu 100% éclairé. Ce sont les E. Nous rêvons de Nord Kivu 100% sécurisé. Ce sont les S. Nous rêvons de Nord Kivu 100% asphalté. Et enfin, nous rêvons, puisque nous sommes dans le domaine de technologie, nous rêvons des mondes, disons, de Nord Kivu 100% numérisé. En sigle, une province 100% paysanne. Et ça, c'est une vision globale au niveau de la province. Mais lorsque vous descendez aussi dans les entités, nous allons dire, nous rêvons de Goma, d'une ville de Goma 100% paysanne. Nous rêvons d'une commune de Karisimbi 100% paysanne. Nous rêvons d'un quartier Les Volcans 100% paysanne. Nous rêvons d'une avenue Corniche 100% paysanne. Même chose pour Boutembo, Beni, Lubero, partout, nous voulons que les gens aient ça comme vision. Et je dois aussi dire que je suis du côté de ceux qui pensent que nous devions avoir une vision prospective, une vision tournée vers le futur, pas une vision de l'immédiateté, une vision de court-termisme. Les gens voient, ne voient pas au-delà de leur nez. Les gens ne savent pas se dire quelle sera la RDC dans 10 ans. Les gens se contentent
de... Ils veulent planter aujourd'hui et récolter aujourd'hui.
Aujourd'hui et récolter aujourd'hui.
Oui.
Non, il faut avoir une vision prospective. C'est dire qu'est-ce que nous serons dans 10 ans. Qu'est-ce que nous planifions dans 10 ans. Et là, il y a nécessité de ce que j'appelle le réformatage mental, une reprogrammation mentale, pour qu'effectivement les gens cessent de penser petit. Les gens doivent penser grand, mais aussi dans la durée. Il faut se dire, aujourd'hui, nous sommes 100 millions d'habitants. Mais à 2050, nous serons combien d'habitants? Nous allons les nourrir comment?
Aujourd'hui, la ville de Goma a combien d'habitants?
Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ce n'est pas moins de 1 million d'habitants. Il faut qu'on se dise, demain, à 2030, nous aurons combien d'habitants? Ils vont habiter où? Ils vont rouler sur quelle route? Ils vont étudier dans quelles écoles, dans quelles universités? Ce sont des questions qu'un leader doit souvent se poser et imaginer des formules.
Et il faut des études démographiques. Il faut étudier
naturellement, naturellement, c'est la base. Les études démographiques et statistiques. Oui. Et aussi savoir planifier. Voilà un peu ce que nous pensons en tant qu'acteurs politiques, mais également leaders parmi les jeunes.
Alors, pour cette vision que vous avez appelée Pessane, quelles sont les stratégies pour sa matérialisation?
D'abord, la première stratégie, telle que je l'ai toujours dit, consiste pour moi à l'éducation financière. J'ai toujours dit, si on a à la tête de nos entités des individus à la pauvreté mentale, il y aura un effet d'entraînement sur l'ensemble des habitants. si vous êtes gouverneur de Nord Kivu, comme le lieutenant général Constant Ndima, Dieu merci, lui là, il a l'éducation financière, il faut qu'effectivement vous ayez l'éducation financière. C'est-à-dire, il faut que les dirigeants à tous les niveaux, national, provincial et local, soient éduqués financièrement. Ça leur permet de ne pas confondre les deniers publics à leurs propres deniers. Et il y a des principes universels qui ne changent pas, qui sont immuables et qui n'échouent jamais si on les applique correctement. Et la gestion d'une entité, c'est comme sa propre gestion. Si vous ne savez pas gérer vos propres finances privées, vous ne saurez pas non plus gérer les finances d'une province ou d'une entité. C'est ce que je l'ai toujours dit. Par exemple, si vous êtes un maire de ville ou un gouverneur qui dépense plus que ce qu'il gagne,
oui.
Mais vous allez avoir tendance à consommer aussi, comme gouverneur, tout ce que vous produisez comme recette, comme maire de ville, comme bourgmestre.
Donc, alors, il faut une éducation financière.
Il faut une éducation financière pour qu'effectivement les gens aient la capacité de savoir transformer les potentialités en richesse réelle. Ça, c'est extrêmement important pour qu'effectivement nous puissions en arriver là. Mais également, il y a l'éducation au civisme. Il faut effectivement que les gens soient éduqués au civisme, mais également au patriotisme pour faire de cette vision une réalité. Et je suis heureux d'être dans une province où les gens comprennent ça. Je crois que vous êtes témoin que vous passez dans la ville de Goma, vous allez constater que c'est quand même une ville ou une province où les gens ont déjà ce genre de vision.
Bien, on s'achemine petit à petit vers la fin de ce programme. Grand témoin qui a l'honneur de recevoir aujourd'hui David Kamua Musuba, conseiller du gouverneur de province, de la province du Nord Kivu, en matière de finances et autres. Alors, un autre titre préféré?
Un autre titre préféré? Alors là, je pense à ma jeunesse. Moi, je suis quelqu'un, lorsque j'étais tout petit, vers mes 10 ans, j'aimais beaucoup Kester Emenea, les Kinks.
Okay.
Comme moi-même, je suis roi David, mais les Kinks Kester Emenea, oui. J'aimais beaucoup Nzinzi.
Nzinzi. Et on vous appelait roi David à l'époque?
Tout à fait.
David Kamua, c'est l'année électorale 2023 en République démocratique du Congo. Quelles sont vos ambitions politiques?
Merci beaucoup. Ah oui, je suis un acteur politique. Il serait anormal que je n'ai pas d'ambition. Et moi, je suis ambitieux pour être député provincial dans les premiers temps. Ce sont mes ambitions et j'y travaille beaucoup. Et c'est pour cela que je suis toujours aujourd'hui membre du Bloc Uni pour la Renaissance et l'Émergence du Congo et partie de l'Union Sacrée, puisque nous pensons et nous sommes convaincus que nous devrions apporter le deuxième mandat au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que nous puissions matérialiser notre vision collective du développement de notre pays.
Quelle est votre vision du développement du Congo dans son ensemble?
Non, je crois que, comme je l'ai dit, le développement doit partir de quelque part. Et j'ai dit que le développement peut partir de l'Est pour embraser l'ensemble de la République. Et ma vision, elle est la même, que ce soit au niveau provincial que pour le niveau national. Je l'ai dit, nous devons avoir une vision prospective et non une vision basée sur l'immédiateté ou le court-termisme. Nous devons avoir une vision fondée sur des valeurs. Et pour avoir une vision fondée sur des valeurs, il y a d'abord un préalable. Et le préalable, c'est la transformation mentale. Il est dit que l'homme est ce qu'il pense. Nous sommes ce que nous pensons. Donc, au niveau national, nous devons cultiver des visions délèguées. Et non pas avoir une vision, et nous voir les choses à petit. Mais oui. Nous sommes une grande nation. Notre pays, comme le disait grand auteur, notre pays a la forme, l'Afrique a la forme
d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo.
La gâchette se trouve au Congo, Franche Fanon. Oui. Et c'est vrai. Alors, nous devons effectivement avoir cette vision de grandeur pour notre pays. Et notre pays n'a pas pour vocation d'être le ventre mou de l'Afrique. Nous avons plutôt pour vocation d'être la locomotive du développement de l'Afrique. Et c'est possible, nous avons beaucoup de potentialités, mais nous devons transformer ces potentialités en richesse réelle. Nous devons effectivement regarder du côté de l'éducation, nous devons savoir que l'avenir du pays réside dans son éducation. Si effectivement les gens n'étudient pas dans les bonnes conditions, si les gens n'ont pas une bonne formation, nous allons former une société vouée à la disparition. Nous devons nous battre. Nous avons, comme je l'ai dit, beaucoup de potentialités sur tous les plans, que ce soit sur le plan minier, sur le plan hydraulique, sur le plan sur le plan environnemental. Nous sommes un pays immensement riche, ce qui nous crée beaucoup de soucis avec nos voisins, oui. Mais nous ne devons pas être des pleurnichards, nous devons être des patriotes capables à nous sacrifier, puisque l'avenir de notre pays en dépend. La jeunesse, à tous les niveaux, nous devons savoir que notre pays sera celui que nous voulons qu'il soit. Notre pays ne sera pas construit par les Chinois, les Américains, les Européens et les autres. Notre pays sera construit par nous-mêmes. Nous devons cultiver cette vision, avoir, comme je l'ai dit, la vision des grandeurs, savoir que nous avons un pays qui sera toujours convoité, mais à nous de nous préparer pour le défendre toutes les fois que cela sera nécessaire.
David Kamoua, qui sont les leaders qui vous inspirent?
D'abord, le tout premier, pour être honnête, Julien Paluku, c'est mon formateur, mon modèle. Ça, je dois le dire clairement. Julien Paluku, c'était leader. Vous voyez ce qu'il a fait au Nord Kivu. Nous continuons à nous inspirer de lui pour continuer ses œuvres. C'était leader. Je crois qu'il y a une vision pour ce pays. Mais avant lui, nous allons citer les héros comme Lumumba, qui sont des grands leaders, non seulement pour notre pays, mais également pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Il y a des grands présidents à travers le monde qui nous inspirent, mais je crois que pour ce qui me concerne, et localement, c'est d'abord l'honorable Julien
Paluku. Alors, un jour viendra où David Kamoua ne sera plus. Qu'est-ce que les générations futures retiendront? Quel héritage vous comptez laisser aux générations futures?
Ça, c'est une question fondamentale, fondamentale et philosophique. Effectivement, toute personne, et je l'ai toujours dit, devrait se poser la question de savoir, lorsque je ne serai plus là, qu'est-ce qu'on retiendra de moi? Lorsque j'enseigne les responsables des entités territoriales décentralisées, le maire, le bourgmestre, les autres, je leur dis, même si vous gouvernez pendant une journée, posez-vous la question, si le lendemain je ne suis plus en fonction, qu'est-ce qu'on retiendra de moi? Et comme je l'ai dit, nous devons effectivement avoir une vision. Et je crois que ce qu'on retiendra de moi, c'est que je suis quelqu'un de très déterminé, je suis quelqu'un de patriote, je suis quelqu'un d'optimiste. Je crois toujours à la réussite. J'ai développé à moi, dès mon enfance, ce que j'appelle l'attitude mentale positive. Quelles que soient les circonstances, j'ai toujours pensé que rien ne peut me parler. Et je suis toujours prêt à transformer les obstacles en opportunités.
Bien, David Kamoua Moussoubao, conseiller du gouverneur de la province du Nord Kivu dans le domaine des finances, infrastructures et autres, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous m'accordez de m'adresser à la population de mon pays et de ma province en particulier.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin ce magazine Grand Témoin qui a eu l'honneur de vous faire découvrir aujourd'hui Maître David Kamoua, conseiller principal du gouverneur de la province du Nord Kivu, en charge des finances, économie, commerce, travaux publics, portefeuille, plan reconstruction et industrie. Merci de nous avoir suivis. Jeudi, Daniel Keshama était au micro. Bob Landou à la mise en onde. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.